n'ont pas connu, et pour X raisons dont nous allons aussi parler cet après-midi. C'est quand même un sujet de prière pour moi et une raison d'être aussi de mon travail et puis de celui de mes collègues, donc des centres de recherche Ellen White dans le monde entier et professeurs d'histoire adventiste, de redire toutes ces choses qui ne sont pas toujours très très connues. Et c'est un sujet de prière et de souffrance en même temps, parce que parfois, eh bien, on a donné des lectures d'Ellen White très sélectives, avec des petits filets, une phrase, une deuxième phrase qu'on met dans une compilation, et puis après la deuxième phrase, pof, on zappe et on va dans un tout autre contexte, sans avoir d'ailleurs eu le contexte de la première référence qui précédait. Et donc, certains frères et sœurs se nourrissent de certaines micro-citations comme cela, en ignorant des chefs-d'œuvre d'Ellen White. Alors, vous aurez peut-être l'occasion de poser des questions. Certaines de vos questions toucheront peut-être au travail de la compilation, qui n'est pas du tout quelque chose d'inintéressant, mais qui peut être parfois très superficiel, hein, comme tout travail qui consiste à avoir une vue d'ensemble de quelque chose. Hein. Je pourrais faire la même erreur parfois en prenant, la correspondance de votre président de fédération, puis je prends un petit bout par-ci, un petit bout par-là, une phrase d'une prédication, une phrase d'un écrit qu'il a publié par-là, et puis je collectionne là en disant, eh bien, on va... C'est Carrel ton prénom, hein, c'est ça? On va faire un livre sur Carrel et la musique classique. Allez, on va faire ça. Et puis, il va me lire, et puis il va dire, je me reconnais bien dans toutes les phrases que tu as citées, Jean-Luc, mais... Je ne me reconnais pas dans le livre. Il existait parfois un travail comme cela, semblable à l'époque d'Ellen White, des membres d'église plus ou moins bien intentionnés, collectionnés, et elle a demandé qu'on arrête ce genre de travail. Ceci dit, elle n'a jamais interdit l'idée qu'on publie des textes d'elle après sa mort, y compris des textes qui n'étaient pas publiés de son vivant. Elle a encouragé cette publication, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle le Ellen G. White Estate, avec des consignes très, très, très particulières. Ces consignes ont-elles été très équitablement suivies, avec beaucoup de sagesse? Eh bien, ça, c'est tout un travail de mea culpa aussi à faire, hein, parce qu'il y a des compilations qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais les grands, grands, grands chefs-d'œuvre d'Ellen White, ce sont les livres de la maturité. Et ce n'est pas pour rien que des livres comme Le Meilleur Chemin, Patriarche et Prophète, Prophètes et Rois, Jésus-Christ, Conquérant Pacifique, donc est un livre sur les Actes des Apôtres, les Paraboles, tout cela, ce sont des livres qui ont été écrits par la grand-mère Ellen White, qui avait quelques dizaines et dizaines et dizaines et dizaines d'années de vie et aussi de ministère. Hein. Donc c'est là que se constitue vraiment l'essence de la pensée d'Ellen White. Parfois, comme je le disais à une sœur ce matin, certains adventistes pensent que ça c'est de la petite nourriture pour chat ou pour tout débutant chrétien. Alors on va faire frire ça à la voisine, aux collègues de travail ou à un petit jeune qui vient de se faire baptiser. Soi-même on ne lit pas ça, ça c'est pour les tout petits débutants. Et nous on avale des choses soi-disant prétendues plus substantielles dans certaines compilations d'un genre parfois exquis, très 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 bon, par exemple Méchage choisi 1, 2 et 3, que nous n'avons pas en français, qui sont des compilations avec des textes très 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 longs, donc très respectueux de la pensée, mais parfois on avale les compilations aussi en pensant que c'est là la substantifique moelle, comme tu as dit dans ta prière. Or, la substantifique qu'elle a écrite bien après, pour ceux qui connaissent cette histoire, la conférence générale de Minneapolis en 1888, hein, Jésus-Christ, 1898, il reste peu d'années à Ellen White à vivre, hein, et les plus grands livres, c'est le livre de la maturité. Voilà. Donc, elle n'a pas dit certaines choses qu'on lui attribue, et elle a dit des choses extraordinaires qui ne sont pas toujours très très connues, et il y a des choses sur elle-même que l'on ne connaît pas, et on va essayer de voir un petit peu cette Ellen White, comment est-ce qu'elle a vécu certaines choses dans sa famille, et puis... aussi des messages essentiels que j'aimerais partager avec vous, que j'ai collectionnés cet après-midi, et après ben, on pourra avoir un petit moment de questions. Alors, je vois que dans la chapelle cet après-midi, il y a quelques collègues pasteurs qui étaient là pour la pastorale. Alors, dans mon intention, ce n'était pas forcément ce sujet-là que je voulais traiter, mais quelques-uns m'ont encouragé à refaire un des exposés que j'ai fait aussi jeudi lors de la rencontre pastorale. Alors, voilà, qui m'en excuse. Par contre, dans le partage qui suivra, il y aura peut-être des questions que nous n'avons pas abordées, nous, dans la pastorale. Donc, une femme nommée Hélène, un titre qui n'est pas naïf, hein, parce que, contrairement à l'idée que certaines lectures en français donnent, Hélène White est une femme. Je dis bien contrairement à l'idée que certaines lectures donnent. Il y a quantité de traduction très masculine d'Hélène White, où tout un vocabulaire de la féminité, de la tendresse, de l'empathie, de la douceur, de la délicatesse, de la nuance, tout un vocabulaire comme cela qui est complètement inexistant de certaines traductions françaises. Hein? Alors, il y a des traductions d'Hélène White en français extraordinaires, surtout les dernières et curieusement les premières. Mais au milieu de tout cela, alors j'ai pris des renseignements, j'ai interrogé des personnes qui ont été les témoins de ces traductions et qui m'ont raconté un petit peu parfois dans quel climat la traduction se faisait. Et c'est vrai que ça se faisait très, très, très rapidement. On n'est pas comme dans la traduction biblique où il y a des commissions de traduction, des révisions de traducteurs, etc. Et ça passe du temps et du temps et, bien sûr, de l'économie. Là, il fallait traduire et traduire parfois trop vite. Hein. Alors, elle est moins femme en français qu'en anglais, malheureusement. Et alors ça, c'est la question de la féminité, mais il y a d'autres aspects aussi qui sont parfois surprenants. Il y a dans la traduction parfois une multiplication de l'égalisme au pluriel. Rien que dans la façon d'écrire, qui existe en français, mais qui n'existe pas en anglais. Une multiplication de « il faudrait que nous devrions »,« il faut », »,« c'est un impératif », etc., etc., qui n'existe pas dans l'anglais. Alors, attention, ne me méprenez pas. Pour moi, il n'est pas question de vous dire qu'Ellen White n'a jamais encouragé les lecteurs à obéir à Dieu. Mais elle le dit quelquefois, et très fréquemment, avec une profondeur et un respect du lecteur qui n'existe pas toujours en français, qui parfois, suivant les époques, multiplie les injonctions. Il faut yaka, yaka, yaka. Ben oui, c'est bien joli, yaka, mais est-ce que j'ai la force de faire ça, moi? Hein? Alors, par exemple, je vous donne juste une petite anecdote pour ceux qui sont anglophiles ou anglophones. Quand en anglais, on utilise le verbe to be avec un infinitif, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas garde à vous devant le général. Hein? C'est l'idée, une expression de quelque chose qui va se dérouler. Hein? L'anglais a aussi I have to, you should, etc. To be to est parfois utilisé naturellement dans ce contexte-là. Mais dire que to be to plus infinitif est toujours de l'ordre de l'injonction, c'est un anachronisme terrible. Et quand Hélène White utilise le to be to plus infinitif, est-ce que ses voisins, ses contemporains le faisaient autant qu'elle, je ne sais pas, mais c'est rarement, rarement de l'ordre du commandement. C'est des choses qui vont se dérouler avec la grâce de Dieu, ça se passera comme ça. Et les to be to plus infinitif ont très fréquemment été traduits par des yaka, il faut, nous devrions, etc. Et alors parfois il n'y a pas de ni to have to, ni should, ni to be to, il n'y a rien du tout, et le traducteur met un gros impératif. Un des plus grands chefs-d'œuvre de la mauvaise traduction, c'est un des passages du chapitre 39 de la tragédie des siècles, le temps de détresse, où elle aurait dit, mais ça c'est le traducteur français qui dit ça, « Pendant que notre souverain sacrificateur est dans le lieu saint, nous devrions, alors déjà ça commence bien, elle ne l'a pas dit, nous efforcer, ça commence, ça continue bien, elle ne l'a pas dit non plus, nous devrions nous efforcer d'atteindre la perfection du Christ. » Alors, elle n'a pas dit cette phrase, mais c'est quand même dans la traduction que nous avons, nous, en français. Hein? Je ne sais pas dans quel état la traduction est dans vos autres langues, ici, puisqu'il y a plusieurs langues, mais en français, nous avons cela. Alors qu'en fait, elle dit simplement, non seulement elle ne dit pas que nous devrions, et encore plus, nous efforcer, hein, qui sommes-nous pour faire ça, mais en plus, la perfection dont il est question, c'est d'être en Christ parfait. Donc c'est une autre chose que Jean-Luc s'arrache les cheveux pour monter au ciel, à coup d'effort, ce que l'Écriture ne nous encourage pas à vivre, hein, surtout pas le Nouveau Testament. C'en est une autre que Dieu me déclare parfait parce que je suis en Christ. Vous comprenez la nuance? Elle est très profonde et la traduction française ne nous encourage pas. Alors un lecteur courageux va lire tout le chapitre 39 et va se rendre compte que bon, mais cette traduction va le choquer, va... Enfin, au début, ce n'est pas la traduction qui va le choquer. Il va dire, tiens, c'est bizarre cette phrase. Alors, il va, s'il a une compréhension de l'inspiration d'Ellen White un peu éclairée, il va se dire, bon, ben, notre sœur White, très fréquemment, nous dit que l'inspiration n'est pas verbale, donc ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les verbes, ce ne sont pas les adjectifs qui sont inspirés. Bon, alors le brave lecteur, il s'en sort comme ça, et c'est déjà une bonne porte de sortie, c'est vrai. Mais quand il lit le chapitre en entier, en effet, le chapitre ne l'encourage pas du tout au perfectionnisme, loin de là. Il n'est question que de communion avec Dieu, de prière, et d'un Satan qui essaye de culpabiliser les êtres humains pendant cette période difficile. Mais qui n'y arrivera pas. Enfin, si, il arrivera, dit-elle, à culpabiliser les gens, mais jamais à les faire tomber. Hein? Alors, il y a une quantité de choses comme ça qui ne reflètent pas forcément la véritable Hélène. Alors, on va regarder quelques photos, si vous voulez bien, aussi, qui parfois donnent une image d'Hélène un peu déformée. Non pas les photos qui ne soient pas belles, mais il y a parfois des gens qui, en voyant Hélène en photo, pense qu'elle ne sourit pas beaucoup et qu'elle a un visage très très triste. Alors on va comparer certaines photos d'Ellen White avec la photo de certains contemporains. Quand vous aurez aussi compris en vous adressant à des photographes qu'à cette époque-là il fallait quelques heures d'exposition pour faire une photo, vous comprendrez bien que c'est dur de sourire pendant quelques heures. Néanmoins, contrairement à beaucoup de ses contemporains, il y a quand même une certaine sérénité chez Ellen White qu'il faut quand même... Oh là, on n'en voit pas bien la couleur, là. Vous arrivez quand même un petit peu à voir? Il fait un petit peu clair, hein? Oui, oui. Ça, c'est un contemporain d'Ellen White, qui n'est pas un spécialiste du grand sourire. Hein? Et plus il a avancé en âge, plus moins il souriait. Ce qui est le contraire d'Hélène. Curieusement, plus elle va vers la retraite, qu'elle n'a jamais prise, mais enfin bon, la retraite, plus elle sourit, plus elle est paisible. Il est mort l'année où elle est née. Hein? Donc ils ont été des contemporains de justesse. Ça, c'est donc Victor Hugo, qui n'est pas non plus un grand souriant. Karl Marx, Louis Pasteur. Alors lui, il a beaucoup critiqué Dieu, mais il n'a pas beaucoup souri. Lui non plus. Darwin, Frédéric Chopin, dont je suis un amoureux inconditionnel de sa musique, et qui me remplit de beaucoup de joie. Mais effectivement, ceci dit, je suis un peu méchant d'avoir mis Frédéric Chopin, parce que ça, c'est même pas une photographie, c'est un daguerréotype, donc l'ancêtre de la photo. Donc s'il faut quelques heures d'exposition à l'époque d'Ellen White, alors en 1849, l'année de sa mort, vous imaginez un petit peu le temps qu'il fallait pour un daguerréotype. Donc je suis un petit peu méchant vis-à-vis de lui. Ça, c'est une photo assez connue d'Ellen White, hein. Elle a donc environ 48 ans, et contrairement à tous ses contemporains, il y a beaucoup de paix dans son visage, beaucoup de sérénité. Ça, c'est une photo qui n'est pas authentique, qui est une composition donc, réalisée par un maquettiste américain de l'Adventist Review, qui nous montre ici un mannequin et ici une peinture qui est sur le CD-ROM des écrits d'Ellen White, pour, avec la mode des petits chignons, le filet, montrer qu'effectivement Ellen White, elle a existé, qu'elle existe encore aujourd'hui, par le patrimoine qu'elle nous a laissé, donc ses écrits. Mais ce n'est pas le seul message de cette composition, c'est que nous lecteurs, qui sommes contemporains de ce mannequin, nous avons un travail de contextualisation très 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 importante, très important en lisant Ellen White. C'est ce que nous faisons dans la Bible, du reste. Hein. Nous sommes très mal placés, nous adventistes, pour lire littéralement 1 Corinthiens 14 qui nous dit que la femme se taise dans l'assemblée. Nous avons beaucoup d'animatrices, beaucoup de femmes au comité, beaucoup de responsables femmes à la conférence générale. Nous avons bien sûr une femme pour laquelle nous reconnaissons du prophétisme, donc Ellen White, et quantité de toutes choses comme cela, et puis des femmes qui prêchent, et qui sont anciennes d'église, diaconesses, etc. Donc nous sommes très mal placés pour lire 1 Corinthiens 14 de façon fondamentaliste, de façon littérale. Hein. Alors, il y a quantité d'autres textes bibliques qui méritent, en effet, une étude contextuelle très très importante. Il faut faire ce travail chez Ellen White aussi. C'est ce que voulait dire ce maquettiste sur ce travail. Quand Ellen White demande aux papas et aux mamans d'une famille que leurs jeunes filles doivent toutes savoir harnacher un cheval et savoir monter à cheval, S'il fallait que je lise ce texte littéralement, il faudrait que je gagne plus d'argent, moi. Il faudrait que je demande à la directrice financière du campus de, peut-être pas doubler mon salaire, mais en tout cas, une bonne provision. Je n'ai pas les moyens d'offrir ça. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas les sous pour payer des cours de chevaux et d'avoir aussi des chevaux pour lesquels je vais louer quelques heures d'équitation que je ne le fais pas. C'est aussi parce que il y a derrière cette application un principe qui est fantastique. Et c'est ce que veut dire cette photo. Il y a dans la Bible, comme chez Ellen White, dû à ce fossé culturel qui nous sépare donc de l'écrivain, un fossé culturel qui nous encourage à lire, bien sûr, les applications pratiques, morales, éthiques, mais à rechercher derrière les applications pratiques un principe qui est beaucoup plus important que l'application en elle-même. Donc, une certaine autonomie de la femme, une certaine valorisation de la femme, une certaine responsabilisation de la femme, même quand elle est jeune fille, une autonomie qui, aujourd'hui, peut-être traduirait par un permis de conduire, on va dire, qui lui permette de faire face à des urgences. Dans le contexte, c'est ça. À l'époque, faire du cheval pour pouvoir aller chercher le docteur, faire face à des dangers, assurer aussi la sécurité de la famille quand papa n'est pas là, ou quand maman est veuve, etc., etc. Donc, c'est de cela qu'elle parle. Alors, que derrière cette actualisation qu'elle en fait, derrière cet exemple pratique, nous puissions rechercher le principe qui est derrière, qui est tout à fait extraordinaire. Alors, c'est tout un travail qui demande de l'humilité. Tous les lecteurs d'Ellen White dans l'histoire n'ont pas toujours eu cette sagesse et cette humilité, influencés par quantité de courants peut-être, ont parfois privilégié une lecture fondamentaliste, donc très très littérale. Ellen White n'est pas Blanche-Neige, pourtant ils ont le même nom. Ellen White, Snow White, ça c'est un mythe, une invention de l'imagination, très jolie, mais un mythe. Ellen White, c'est une femme réelle. Donc, ce serait dangereux de lire Ellen White comme un personnage mythique. Alors, je vais, pendant cet exposé, essayer de vous faire connaître mieux, pour ceux qui connaissent déjà, ou connaître tout court, certains aspects de ces mythes. Ces mythes qui sont très, très dangereux, ces clichés, qui risquent parfois de conduire le lecteur, la lectrice, à des distorsions, je vous disais tout à l'heure, psychologiques, spirituelles même parfois. Parce qu'il y a des gens qui confondent Ellen White et Dieu. Et en plus, l'Ellen White en question n'est pas la véritable Ellen White par-dessus le marché. Ce serait déjà grave que des personnes s'imaginent que leur conscience est Ellen White. Mais c'est encore plus grave de ce que ce n'est pas la véritable Ellen White. Il y a des chrétiens dans nos milieux parfois qui se sentent un petit peu suivis, vous savez, comme par un agent secret ou par un flic qui est là, mandaté pour prendre la personne en filature et qui ont l'impression d'être toujours surveillés. Et en entendant ces personnes, on se rend compte que ce n'est pas de Dieu qu'elles parlent, ce n'est pas du Saint-Esprit qu'elles parlent. Dans leur cœur, pour peu qu'elles soient honnêtes et qu'elle partage cette souffrance, c'est d'Ellen White qu'elle parle. Mais Ellen White, avec tout ce qu'il y a de plus E minuscule, parce que ce n'est pas la véritable Ellen White par-dessus le marché. C'est un mythe. Donc, moi, je vous encourage beaucoup, et je peux vous aider aussi, si nous restons en contact, à répondre à certaines de vos questions, et tout à l'heure aussi, et à vous encourager à la lecture, et aussi à enrichir votre lecture pour connaître mieux Ellen, la véritable Ellen. Ellen White a grandi dans un milieu pas facile du tout, un milieu méthodiste. Et ce n'est pas parce qu'il est méthodiste que ce milieu n'était pas facile. Il y a méthodisme et méthodisme, et moi je ne veux pas que vous ayez, avec ce que je vous dis cet après-midi, une sorte de critique, de racisme religieux à l'égard de nos frères et sœurs méthodistes. Nous leur devons spirituellement beaucoup. Beaucoup, et à John Wesley en particulier, le fondateur du méthodisme. Mais comme il y a adventisme et adventisme, il y a aussi méthodisme et méthodisme, il y a sans doute bruxellois et bruxellois, on voit de tout, le pire côtoie le meilleur, comme à Collonges-sous-Salève, et comme dans mon caractère moi-même, il y a le pire et le meilleur chez Jean-Luc. Alors, dans le méthodisme, c'est vrai, elle n'a pas rencontré le meilleur, la pauvre. Et le méthodisme qu'elle a vécu est un méthodisme qui lui a encouragé beaucoup au travers de théologie de l'enfer, de l'immortalité de l'âme et quantité de choses, la peur de Dieu. Réellement, un Dieu à la limite islamiste presque, mais version chrétienne, qui rencontre l'homme dans une sorte de transcendance qui écrase l'être humain, qui est tout petit devant cette transcendance. Naturellement, loin de moi l'idée de dire que Dieu n'est pas grand, que Dieu n'est pas majesté, et que Dieu n'est pas transcendant, et que Dieu n'est pas différent de nous. Il est tout ça, mais il n'est pas que cela. Il est à la fois au ciel, et il est aussi notre Père qui est aux cieux. Hein? Il est très proche, et Jésus-Christ nous l'a montré, et il est très différent en même temps. Hein? Donc il y a une proximité de Dieu qui manquait beaucoup chez la jeune Ellen White et dont elle va se souvenir toute sa vie. Toute sa vie, Ellen White va lutter contre cette culpabilité. La sienne sera guérie, mais elle va avoir un ministère pour encourager les gens qui vivent dans cette, j'allais dire, dépendance de Dieu. Mais attention, comprenez-moi bien, dépendance dans le sens d'addiction et de peur et de trouille de Dieu. Son dernier écrit parlera de ça aussi. Elle écrit à une sœur qui est dans une relation avec Dieu dramatique, qui n'a pas l'assurance du salut, et qui vit vraiment dans une angoisse terrible spirituelle. Et ça va être encore un grand chef-d'œuvre de la part d'Ellen White, d'écrire donc en 1914 son dernier écrit, qui malheureusement n'est pas traduit en français, c'est dommage, hein, qui est publié, hein, et ça a été publié du vivant d'Ellen White en anglais, peut-être elle se traduit dans d'autres langues, mais en tout cas, nous n'avons pas ce bonheur en français, un écrit donc qui parle de l'assurance du salut, de la paix, de la joie de rencontrer Dieu, un Dieu généreux, et donc cette sœur, Ellen White, encourage, elle se bat dans cet écrit pour que cette femme soit réconciliée avec Dieu, non pas parce qu'elle va être parfaite, mais parce que Dieu la regarde parfaite, et parce que ses péchés sont pardonnés. Donc c'est beau pour nous de savoir que son testament spirituel, c'est la grâce. C'est assez fantastique. Et toute sa vie, elle va militer pour cela. Et ça va être partiellement donc quelque chose qui va encourager Ellen White dans ce qu'elle appelle la Great Controversy, qui n'est pas simplement un livre d'Ellen White, que nous appelons nous la tragédie des siècles. C'est beaucoup plus qu'un livre. C'est vraiment une pensée, une philosophie chrétienne qui traverse toute son œuvre. L'idée que Dieu a le visage défiguré par Satan, qu'il est en procès, Dieu. Beaucoup plus que l'être humain, d'ailleurs, entre nous soit dit, dans le jugement. Dieu est en procès, accusé d'être un incompétent, d'avoir une autorité qui écrase l'être humain, qui exige de l'être humain une obéissance draconienne. Alors, Ellen White parle de tout cela. Et aussi, un Dieu incompétent, incapable d'entretenir des relations gratuites avec l'être humain. Un peu comme c'est écrit dans le livre de Job, entre nous soit dit. Alors Ellen White épouse beaucoup cette pensée, elle la développe. Un peu comme si Satan s'adressait à Dieu et lui dit « Mon pauvre Dieu, ne t'imagine pas que Jean-Luc, quand il observe le sabbat, c'est pour te rencontrer, pour avoir des relations intimes avec toi et pour avoir des échanges affectueux avec toi, pour vivre dans ton repos, mon pauvre Dieu. Tu connais Jean-Luc ? Lui, ce qu'il veut, c'est gagner son salut par ça. Éventuellement, avoir du repos psychologique. Et puis quand il pratique la réforme sanitaire et quand il paye la dîme, tu t'imagines que c'est pour te faire plaisir ? C'est parce qu'il veut être béni ? En payant la dîme. C'est parce qu'il veut vivre 10 ans de plus à sa retraite qu'il ne fume pas et qu'il ne boit pas, etc., etc. Donc, Ellen White décrit un Dieu accusé et un Dieu dont le visage est complètement déformé. Alors, son enfance a contribué, la souffrance qu'elle avait eue dans son enfance a contribué à générer ce message qui va être un très beau, très très beau message dont elle va être libérée, mais elle va aider aussi beaucoup d'adventistes à être libérés de cette terreur. Alors sa maman va lui conseiller d'aller voir un jeune pasteur qui s'appelle frère Stockman, un jeune pasteur de 30 ans, et qui va faire une révolution dans le cœur d'Ellen White. Pendant les quelques minutes au cours desquelles frère Stockman m'a instruite, j'ai appris beaucoup sur l'amour de Dieu et sa tendre compassion. Plus encore qu'avec toutes les méditations et tous les sermons que j'avais pu écouter jusque-là. Et elle va parler d'angoisse mentale dans laquelle elle se trouvait. Et j'ai traduit littéralement, hein, « mental anguish », elle dit. Elle dit pourquoi ? Parce que la justice de Dieu avait éclipsé sa miséricorde. Alors, loin d'elle, la pensée de dire que Dieu n'est pas justice. Simplement qu'il n'est pas que justice. Dieu est justice, et il est ceci, et il est cela, et il y a quantité d'autres attributs de Dieu qu'Ellen White ne méditait pas, ne savourait pas. Il n'y avait que Dieu juste, un Dieu, comme je l'ai dit ce matin ici, pour ceux qui étaient là, un Dieu radar, qui se réjouit presque de la prise en faute. Alors l'angoisse mentale était très profonde, dit-elle. Ça c'est le texte que nous avons lu ce matin donc, dans le message de la prédication, qui est le portrait de Satan, que Satan imagine de Dieu. Donc, hein. En fait, en imaginant Dieu, Satan est en train de s'auto-décrire, d'une certaine façon. Ça, c'est intéressant aussi, ça, pour nous. Hein. Alors, je vais un peu plus loin, parce que nous l'avons lu ce matin, pour ceux qui étaient là, et elle conclut, dans le premier chapitre du Meilleur Chemin, que finalement, l'une des raisons d'être de l'incarnation, de la venue de Jésus, c'est de révéler qui est notre Papa Céleste. Son identité, son caractère. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps chez Ellen White, à tel point, vous le verrez à la fin de mon exposé, qu'elle nous dit que ce message-là, c'est le dernier message que les contemporains du retour du Christ doivent prêcher. Pas un dernier message uniquement, et pas prioritairement moral, éthique, et quantité de choses que parfois nous disons véritables, et c'est vrai, qui touchent à nos croyances fondamentales, etc. Et c'est des choses fantastiques que Dieu a inspirées dans sa parole, mais plus urgente encore que tout ça, notre dernière prédication, c'est le caractère de Dieu, dit-elle. Hein? Caractère de Dieu que nous prêchons, pas seulement avec notre salive, mais que nous prêchons avec notre vie. Alors elle dit en effet que, ça c'est donc un extrait de la tragédie des siècles, qui s'appelle Great Controversy en anglais aussi, que ce que Dieu veut, c'est que nous apprécions son caractère, de façon intelligente. Et comme l'évangile, comme l'apôtre Paul, elle nous dit que la vie chrétienne, c'est le fruit de l'émerveillement. C'est une contemplation, la vie chrétienne, pour reprendre un vocabulaire plus catholique. La bonté de Dieu me conduit à la repentance. Ce n'est pas autre chose que la miséricorde de Dieu. Ellen White le dit fréquemment, cela. La vie chrétienne, c'est une découverte, un émerveillement du caractère de Dieu. Cet émerveillement nous donne envie d'avoir des relations avec ce véritable, authentique Dieu. Et cette relation avec Dieu, fruit de ce caractère, eh bien, nous décentre de nous-mêmes. Hein, c'est ce qu'on appelle la conversion. Nous ne sommes plus le nombril de la planète, notre nombril du monde. Nous nous abandonnons à Dieu dans la relation que nous avons avec lui. Il est tellement merveilleux. Et ça porte des fruits, enfin. De même, Ellen White nous dira aussi que le péché, c'est un petit peu ce que dit d'ailleurs le rédacteur de la Genèse au chapitre 3, quand on voit que Satan porte des graves soupçons sur l'intégrité de Dieu dans ce chapitre. Elle nous dit aussi, Ellen White, que le péché, finalement, c'est une mauvaise représentation du caractère de Dieu. D'abord, avant d'être des actes, le péché, c'est un problème de relation avec Dieu. Et même avant le problème de relation avec Dieu, c'est un problème de visage de Dieu, de caractère de Dieu, une mauvaise information que nous nous faisons, par influence ou parce que nous la fabriquons, une mauvaise image déformée de Dieu. C'est un vocabulaire qui revient fréquemment chez Ellen White. Ensuite, le péché, eh bien, c'est une coupure de la relation, une relation quasi inexistante parce que Dieu est tellement terrifiant. Et ensuite, eh bien, c'est un égocentrisme, c'est loin de la conversion qui s'abandonne, c'est une vie centrée sur soi, et alors des actes, et des actes, et des actes qui ne sont pas en harmonie avec la vie chrétienne. Hein? Alors, guérir quelqu'un qui a des actes répréhensibles, ce n'est pas lui dire « tu fais mal, c'est pas bien, fais pas ci, touche pas ça ». Il faut lui faire connaître le caractère de Dieu. Et ça, c'est un message pour lequel je remercie beaucoup Dieu d'avoir inspiré cette femme, qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que moi aussi, et en entrant dans la communauté adventiste, il y a quelques dizaines d'années, pas une centaine de dizaines d'années, hein, juste quelques dizaines d'années, hein, deux à peine trois, mais enfin quand même, que je ne vivais pas. Il a fallu du temps aussi, des souffrances, pour que je comprenne que accompagner quelqu'un vers Dieu, c'est pas lui dire, c'est pas bien, c'est mal, fais ceci, fais cela. Moi, je demande pardon à Dieu pour beaucoup de légalisme dans ma vie. Et cette femme m'a fait du bien. Elle n'est pas la seule à m'avoir fait du bien. Il y a d'autres chrétiens qui m'ont fait du bien aussi, bien sûr. Hein. Ce n'est pas l'unique envoyé de Dieu de toute l'histoire de l'humanité, Ellen White. Mais enfin, elle a contribué beaucoup à me faire du bien. Et donc là, je vais passer maintenant, mais dans la tragédie des siècles, en effet, elle parle toujours de ses efforts de Satan pour défigurer de Dieu le caractère de Dieu et encourager donc à la peur, la haine, et non pas l'amour. De la même façon, quand elle parle des Vaudois, elle dit, c'est très beau ça, que c'était essentiellement cela leur mission. Quand ils rencontraient des personnes écrasées par l'angoisse, la culpabilité, pourtant des gens consciencieux, mais qui avaient une image de Dieu, dans ces vallées, en tout cas piémontaises, là, un Dieu de vengeance, un flic, un radar, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est exécuter sa justice. Alors, les Vaudois, eh bien, c'était ça, vraiment leur plus grand bonheur. On va voir Ellen White un petit peu aussi chez les siens, donc dans sa famille, et on va commencer par son papa et sa maman, qui sont devenus adventistes très tardivement, quelques années avant de mourir. Monsieur et madame, donc, Harmon, hein, qui était d'origine méthodiste, tout prophète qu'elle était, eh bien, ma foi, ses parents sont devenus, pas rapidement du tout, adventistes. Sa sœur jumelle, Elisabeth, n'est jamais devenue adventiste. C'est certainement une souffrance quand on sait les relations qu'il y a entre des jumeaux, hein. Ça n'a pas été facile. Et Ellen White n'a jamais cherché à les convertir dans le sens négatif du terme, dans le sens prosélytisme, j'entends, hein. Voilà. Donc, voilà, elle les a laissés avec leur liberté, mais ils sont devenus adventistes. Cependant, et là, nous allons non seulement apprendre qu'ils s'aimaient par ce texte, mais nous allons apprendre aussi un élément très, très beau du caractère d'Ellen White qui revient fréquemment dans sa vie. Ils n'étaient pas d'accord. Ça ne les empêchait pas d'être un. Ils n'étaient pas d'accord, pas sur des questions de payer la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, hein. Ah non, sur les exigences de la vie chrétienne, dit-elle. C'est quand même fort, ça. Et malgré cette différence, cette pluralité entre papa, maman et la fille, nos cœurs étaient un. Et je dois beaucoup, frères et sœurs, ça je peux vous le dire, parce que ça m'aide aujourd'hui, lorsque je rencontre, et c'est-à-dire tous les jours, hein, entre nous soit dit, tous les jours, dans la famille, comme dans l'église, comme dans le monde chrétien, lorsque je rencontre des gens qui se comportent différemment de Jean-Luc, pensent différemment de Jean-Luc, que Jean-Luc, dans l'église, dans la famille, dans le monde chrétien, ou en dehors de celui-ci. Cette idée, selon cette femme Ellen White, à l'exemple de Jésus, qui est le plus grand maître de cette indulgence, cette tolérance face à la différence, cette idée qu'on ne peut pas définir un être humain en fonction de ce qu'il sait, ne sait pas, a compris ou n'a pas compris. On peut être un avec quelqu'un, alors que peut-être dogmatiquement nous ne sommes pas en communion. Hein, ça c'est tout à fait fort et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Cette insistance, c'est pas une insistance, c'est un combat chez Ellen White pour faire comprendre ça aux adventistes, à ses lecteurs. Vous allez le revoir de temps en temps aussi dans mon exposé. Avec James, les relations étaient merveilleuses, mais pas toujours merveilleuses. James était quelqu'un de très compétent, très très doué, un grand administrateur pour la cause de Dieu, mais avec un caractère parfois de cochon. Enfin, c'est peut-être une expression française, je veux dire un caractère, oui, presque caractériel parfois, en tout cas très dur, macho, par-dessus le marché, et très, très, très autoritaire, pas facile à vivre. Il fallait se le farcir, le James. Et à tel point, et pourtant tous les deux servaient la cause de Dieu avec beaucoup d'intégrité, elle n'a jamais reproché à son mari d'être malhonnête ou quoi, mais dur, quoi. Hein. Ceci dit, elle se reproche elle aussi des choses vis-à-vis de James que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. Alors ils se sont séparés pendant 2 ans. Ils n'ont pas divorcé. Soyez rassurés, vous dormirez bien ce soir, sans problème. Ils ont obéi à l'apôtre Paul, qui dans 1 Corinthiens 7 nous dit que pour un peu de temps, qui a duré 2 ans hein, quand même, hein, un peu de temps, et pour vaquer à la prière, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont choisi d'évangéliser séparément et de travailler pour la cause de Dieu séparément. Aux États-Unis, ça représente quelques miles, quelques milliers de miles, leur séparation. Ils n'étaient pas dans un petit bosquet ici et dans un autre petit bosquet là. Par contre, pendant ces 2 ans, très surprenant ça, ils n'ont pas arrêté de s'écrire des lettres d'amour, que vous pouvez venir voir à Collonges, puisque nous avons tous les manuscrits là-bas, en facsimilé. Chose aussi surprenante, c'est qu'Ellen White se reproche des choses. Elle ne dit pas que c'est le bouc émissaire pour Azazel, James, et que elle, eh bien ma foi, c'est la vegetarian Virgin Mary, pas de problème, moi j'en ai fini avec le péché, c'est une question qui est réglée, je suis devenue une sainte, encore plus que Mère Teresa, et donc le problème c'est James. Non, non, pas du tout, du tout. En 1876, c'est pas marqué là, mais sur mon écran je vois la date, donc c'est l'année de la réconciliation, enfin, réconciliation, du retour ensemble, on va dire, puisque c'était de 74 à 76, elle écrit ça. Ça me fait de la peine d'avoir dit, ou d'avoir pu écrire des choses qui ont pu te faire mal. Pardonne-moi. Je vais veiller à ne plus recommencer. Vous voyez dans quel ton très intime, presque un enfant, hein, qui parle là. Je ne vois sans doute pas comme tu vois, comme tu le vois, mais je ne crois pas que ce soit mon rôle ou mon devoir d'essayer de te faire voir les choses comme je les vois, de te faire ressentir comme je ressens. Si j'ai fait cela, j'en suis désolé. Je ne prétends pas être infaillible, ni avoir un caractère chrétien parfait. Ma vie est faite de fautes, d'erreurs. Quand elle dit ça, elle ne se reproche pas de trop manger de Magnum ou de boire pendant le repas ou de trop faire la grasse matinée le sabbat matin. Non, non, les fautes et les erreurs dont elle parle, ce sont des fautes face à James, des fautes essentielles de relations humaines, hein, d'autoritarisme peut-être un petit peu. Je n'en profiterai pas pour vous dire que ce sont les femmes qui dirigent les maisons. Hein. Il y a des hommes qui pensent que ce sont les hommes qui sont les maîtres de la maison. Il y a des hommes. Chez nous, on va dire que c'est 50-50. Je vous dirai pas quand ce n'est pas 50-50, de quel côté ça penche. Chaque jour, je ressens le besoin de me repentir profondément. Et alors, elle ne dit pas qu'elle se repent parce qu'elle a mangé des cacahuètes pendant l'école du sabbat, hein, pour la dureté de mon cœur. Et aussi parce que ma vie n'a pas été plus en harmonie avec la vie du Christ. Je pleure sur la propre dureté de mon cœur, sur ma vie qui n'a pas été l'exemple qu'elle aurait dû être pour les autres. Elle écrit ça une année avant le décès de James. Alors, ça peut choquer de voir qu'une femme pour laquelle nous considérons qu'il y a eu inspiration de Dieu, prophétisme, puisse dire des choses comme cela, d'autant que certains lecteurs ignorent tous ces textes, qui sont des manuscrits, comme vous le voyez, c'est une lettre, mais ces manuscrits sont très enrichissants, et nous montrent une femme authentique. En tout cas, l'impression que ça me fait à moi, lecteur d'Ellen White, c'est que ça m'encourage mille fois plus à lire cette femme que le mythe qui était dans mon cœur autrefois d'une femme surnaturelle, un zombie extraterrestre qui n'a jamais habité sur cette planète finalement, et pour laquelle, eh bien, j'imaginais une vie complètement irréaliste. Le péché, comme si Ellen White me disait, mon petit Jean-Luc, je ne sais même pas que ce terme existe. Hein? Non, c'est une femme qui a aussi malheureusement vécu une souffrance dans son obéissance à Dieu et dont elle témoigne, dont elle parle, et ça fait du bien. Nous ne pouvons pas nous-mêmes continuer, comme parfois ça a été ma tentation, de nous présenter comme des personnes ultra compétentes et des personnes qui, du haut de notre grande spiritualité, enseignent au monde comment il faut se comporter, parce que ce monde est pécheur et que nous, nous sommes des êtres qui en avons fini avec le péché. Les personnes qui nous rencontrent ont besoin de voir des êtres humains. Des êtres humains, j'ose dire, pécheurs. Non pas parce qu'ils le revendiquent qu'ils sont pécheurs. Si on pouvait s'en passer, ce serait fantastique. Mais qui le sont. Mais qui grandissent. Et c'est là le cadeau de Dieu. Hein, qui grandissent dans leur relation avec Dieu. Et dans leur relation avec l'humanité. Alors Ellen White est un témoin de cette authenticité justement là. Avec ses enfants aussi. Je vous donne juste un texte, hein, parce que je ne peux pas tout vous dire, mais elle se reproche aussi certaines choses dans son éducation. C'est quand même fantastique. Une femme qui a beaucoup écrit sur l'éducation, dont ce livre en 1913, Education. Il m'a été montré que, et quand elle dit il m'a été montré, elle ne dit pas c'est mon voisin de palier qui me l'a dit, hein, que nous avons manqué à notre devoir. J'ai vu que nous devrions instruire nos enfants avec simplicité. Mais cependant, et vous imaginez le sous-entendu qu'il y a dans le « cependant » avec gentillesse et patience. La plupart d'entre vous êtes des papas et des mamans. Et comme vous, moi, je ne peux pas dire que j'ai élevé mes enfants à la perfection et sans avoir jamais dit des choses qu'il ne fallait pas dire, vécu des choses qu'il ne fallait pas vivre, puni comme il n'aurait pas fallu punir, ou peut-être être trop cool comme il n'aurait pas dû être trop cool. C'est pas toujours facile de savoir quelle est la volonté de Dieu. En tout cas, elle a l'authenticité de reconnaître ses infirmités, cette femme. Alors, nous ne pouvons pas rendre hommage à cette femme en cachant tout ça. C'est pas possible. Nous entretenons un mythe. Il faut pas. C'est pas Blanche-Neige. Et c'est une femme qui aimait rire. Contrairement à ce que certains disent en regardant ces photos, elle aimait rire. Et parfois, elle se tordait de rire. C'était rare, naturellement. Elle avait autre chose à faire dans son ministère que d'avoir un ministère de clown. Mais elle riait. Parfois même, des éclats de rire, des fous de rire. Et parfois, ça lui arrivait, ne la méprenez pas, mais elle tombait par terre parfois. Elle n'était pas en transe parce qu'elle riait. C'est pas ça du tout que je veux vous dire cet après-midi. Mais parfois, tellement le fou rire que ça... Voilà quoi. C'était vraiment une grande bonne humeur. Et avec son fils aussi, parfois, il s'avait arrivé de rigoler. Non seulement parce qu'il y avait beaucoup de batailles de polochons. Enfin, on dit peut-être pas de polochons ici chez vous. Si. Des batailles de traversins, d'oreillers, qu'elle encourageait. Ah oui, alors ça, elle encourageait beaucoup. Parce que les enfants, parfois, se sentaient culpabilisés. Elle dit, non, on recommencera demain. Alors, paf, paf, comme dans les vieux films en noir et blanc. Vous savez, on voit les enfants, là, qui se bataillent avec des coups de polochon. Alors, il y avait des soirées très remplies d'ambiance chez les Whites. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était des gens très hospitaliers. Et le fiston, lui, il avait une réputation de marmotte, donc de grand dormeur devant l'Éternel, et qui ronflait sur l'estrade. Particulièrement quand ce n'était pas lui qui prêchait. Et par exemple, lorsque Arthur Daniels, le président de la conférence générale, prêchait, il arrivait que William ronfle sur la chaire. Alors l'assemblée, ben, vous imaginez que c'était aussi une occasion de rire. Et quand c'était le petit frère William qui devait faire la prière finale, et que Arthur Daniels, un jour, dans sa prédication, mentionne le nom de frère White. N'est-ce pas frère White? Parce qu'on aime bien, nous prédicateurs, des fois, regarder un peu les visages. Et derrière, et voilà. Et le gars, il se lève, et puis il vient faire sa prière. Il n'y a pas de micro, mais il coupe la prédication en deux, et puis il fait sa prière, parce qu'il croit que c'est la fin de la liturgie. Alors le brave président remercie le frère White et il lui dit, ben voilà quoi, je continue ma prédication maintenant. Ah bon, c'est pas fini? Ben non, c'était pas l'entracte. C'était pour tout à l'heure, frère, c'était pour la fin. Mais bon, on continue. Et un jour, c'est maman White qui prêche et même cinéma, sur l'estrade. Et là, Ellen White se dit, ben, bon ma foi, si ça peut capter l'attention pour ce que je dirai tout à l'heure, alors on fait une petite pause pour s'amuser un petit peu. Et elle dit qu'il ne faut pas lui en vouloir à William, parce que c'est elle, Hélène, qui lui a appris à ronfler sur l'estrade. Alors là, re-rire de l'assemblée. Et elle dit que, effectivement, parfois James prêchait dans une autre église et elle n'avait pas de babysitter. Alors elle l'emmenait sous la chaire et avec ses pieds, eh bien, elle bougeait le petit, comment on appelle ça, un petit landau, quoi. Un petit berceau, pendant qu'elle parlait, quoi. Et alors, ça l'endormait. D'où l'idée que c'est moi qui lui ai appris à faire ce que vous voyez, frères et sœurs, ce matin. Alors, voilà, il y avait des petits accents d'humour dans des prédications d'Ellen White. Pas de façon abusive, parce que, parallèlement, elle a aussi encouragé les pasteurs à ne pas transformer la liturgie en un spectacle de clown. Parce que, chez nos bien-aimés américains, c'était une tentation à l'époque. On m'a dit que ça continuait parfois à être une tentation. Parce qu'il y a tellement, tellement de bonheur à raconter des anecdotes que parfois la prédication est une anecdote ou mille anecdotes mis bout à bout. Je ne dis pas chez les adventistes, c'est pas particulièrement chez eux que je vois ça, mais parfois ça arrive, quoi, que c'est un showbiz, quoi, et les médias, je ne sais pas si chez vous en Belgique c'est le cas, mais les médias français rigolent de ça, mais c'est terrible, rigolent de façon très sévère, de certains cultes où on se demande si on n'est pas sur un plateau de télé plutôt qu'à l'église, et alors. Alors bien sûr, il y a la foule. Alors, qu'est-ce que vient chercher la foule? Bon, les médias français sont très très sévères. Un dernier point sur ce sourire d'Hélène, pour vous raconter très brièvement un petit détail croustillant du mariage d'un pionnier qui s'appelle Daniel Bourdeau, qui était aussi un dur à cuire d'ailleurs. Hein, il y a des courriers entre Hélène White et lui qui sont très intéressants. Elle a beaucoup accompagné cet homme et dans la maturité, il s'est souvenu d'Hélène et vraiment ça lui a fait un bien extraordinaire. Alors le jour de son mariage, il a été très dur à cuire avec sa femme. Il y a le culte, ça se passe l'après-midi. James fait la prédication, c'est Hélène qui fait la prière de bénédiction, de consécration. Surprenant aujourd'hui dans certains milieux où on ne mettrait peut-être pas une femme pour faire la prière de consécration, mais c'est Hélène qui l'a faite. Hélène qui d'ailleurs était à la conférence générale dans la liste des pasteurs consacrés, tout en n'ayant jamais été ordonné pasteur, consacré pasteur, mais elle était dans la liste des pasteurs consacrés. Je ferme la parenthèse, on en parlera peut-être une autre fois. Et elle fait ça. Et donc après, il y a eu un repas, petit rafraîchissement, repas, on s'est amusé un petit peu. Mais lui, le Daniel, il pensait partir en voyage de noces l'après-midi. Il a trouvé que ça commençait à faire un petit peu longué, là. Et il commence à râler, à râler, à râler. Et alors, il fait les 100 pas dans les couloirs. Et il prend ses valises et il les met dans la diligence, de la chambre à la diligence, de la chambre à la diligence. Alors, il y a plein de monde là, parce qu'ils avaient mangé, fait le culte et tout ça, mais ils dormaient, les frères et sœurs, ils avaient loué un gîte, on va dire, dans la campagne, et puis voilà. Hélène croise Daniel dans les couloirs. Là là. La porte de la chambre est entrebâillée, la petite femme Bourdeau est en petite tenue, habillée, je vous rassure, mais en petite tenue. Ensuite, elle se met au lit. Elle claque des dents et Hélène la voit là dans la porte entrebâillée. Elle appelle Daniel et lui dit, écoute, j'aimerais bien te dire quelque chose quand même, parce que tu fais tes bagages là, mais à ta place, je penserais à autre chose quand même. Vu la journée passée, il lui dit, Daniel, il y a à l'intérieur de cette chambre une femme effrayée dans son lit, totalement pétrifiée par la peur. Ça commence bien le mariage, hein, parce qu'elle a peur de toi, ta femme. Alors Daniel, tu vas aller la rejoindre tout de suite, et tu vas l'aimer, et tu vas la réconforter. Et puis Daniel, tu vas la traiter avec gentillesse, tu le feras amoureusement, et cela lui fera du bien. Et Daniel, ça te fera du bien à toi aussi. Eh oui, c'était aussi un être humain, cette femme, Hélène White, qui comprenait la vie et qui l'appréciait aussi la vie. Parce que ce dont elle parle là, frères et sœurs, c'est aussi la création de Dieu. C'est pas simplement le ciel, les nuages, les fleurs. C'est aussi la création de Dieu, une beauté fantastique. Il ne devrait pas y avoir des gens plus joyeux que les chrétiens, dit-elle, en 1871. Parce qu'ils savent que Dieu est leur papa, leur père, et leur ami éternel. Voilà pourquoi les gens chrétiens devraient être heureux, dit-elle. Pourtant, beaucoup de chrétiens donnent une image déformée du christianisme. Ils apparaissent sombres comme s'ils étaient sous un nuage, dit-elle. Hein, c'est pertinent, cette phrase. Alors, là aussi, elle pense à son enfance, j'imagine, derrière ces textes. Parce que ce n'était pas la spiritualité de son enfance, ce dont elle parle ici, là. Loin de là. Quelques conseils maintenant dont elle parle, ce sera un petit potluck un peu varié que je vais vous présenter maintenant, après avoir parlé de sa vie grossièrement. Quelques conseils sur des sujets qui ne sont pas toujours très très connus, j'ai choisi exprès cela. Par exemple, concernant la manière de lire, en tout cas d'utiliser ses écrits. C'est pour ça que pour ceux qui étaient là ce matin, je vous ai dit que toute cette journée, tous ces 3-4 jours passés ici sur Hélène White, est-ce que ça lui aurait fait tant que cela plaisir? Bon, elle aurait certainement assimilé, parce que ce serait sans doute dit si elle était là ce matin. Bon, peut-être certains n'ont pas une grande connaissance de mes écrits, d'autres ont peut-être une lecture distordue de mes écrits. Donc, mon petit Jean-Luc, vas-y, hein. J'aime pas trop qu'on parle tant de moi que ça, mais ils t'ont invité, les frères, vas-y quand même, hein. Mais elle m'aurait aussi dit,